Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec le docteur Marie Coste. Elle va animer une conférence le 12 mai à 20h à l'espace citoyen de Cesson-Sévigné. C'est gratuit, c'est ouvert à tous et ça va parler de patients connectés. Bonjour Marie.
Bonjour.
Eh bien, je pense que cette affaire de patients connectés est quelque chose qui intéresse tout à chacun parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri, que ce soit la maladie en elle-même ou la prévention, d'être un peu connecté avec son médecin, avec, que sais-je, des institutions pour pouvoir suivre son programme de santé. C'est bien cela ?
Oui, tout à fait, Juliana.
Alors, de cela est née donc cette conférence, le patient connecté. Mais qu'est-ce que c'est ce patient connecté ?
Eh bien, justement, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble mardi soir. Donc, une conférence préparée avec un patient partenaire avec qui j'ai pu faire des cours à la fac de médecine, qui m'a proposé d'intervenir sur cette thématique. Et donc, l'idée, c'est de croiser l'évolution des technologies, l'évolution de la médecine et l'évolution du patient lui-même dans notre système de santé avec tous les apports du numérique aujourd'hui.
Alors, vous êtes médecin gériatre et vous êtes également référente Telle Santé au CHU de Rennes. Donc, la référence à Telle Santé, il s'agit de quoi exactement ?
Alors, la télésanté, c'est désormais une pratique médicale à distance hein, qui est rentrée dans la loi en 2009. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Qui s'est cherchée, qui a été expérimentée par plein de médecins, d'équipes, voilà. Et qui finalement est rentrée dans le droit commun depuis 2018. Et ça concerne la téléconsultation. Généralement, tout le monde sait ce que c'est maintenant la téléconsultation, surtout depuis le Covid. Et puis, il y a d'autres actes médicaux à distance qui sont la télé-expertise. Donc là, c'est les avis entre médecins ou professionnels de santé qui concernent votre santé, le patient. C'est aussi la télésurveillance avec un champ de développement extraordinaire sur ce sujet. Je vous donne des exemples ?
Oui, carrément,
je te donne
oui.
Okay. Donc, par exemple, un patient diabétique sous insuline, eh ben, aujourd'hui, il va avoir son dispositif implanté qui va mesurer son taux de sucre, sa glycémie quasiment en permanence. Et vous voyez, il y a certains systèmes maintenant qu'on appelle par exemple des boucles semi-connectées où on va avoir un lien entre la mesure de la glycémie et la délivrance de l'insuline par la pompe, via des algorithmes qui vont se personnaliser au patient. Et vous voyez, l'équipe de diabétologie qui va suivre le patient va pouvoir en permanence à distance savoir comment est régulé le sucre du patient diabétique. Voilà, c'est un exemple. On peut penser aussi aux dispositifs qui enregistrent le cœur en permanence. Tout ça, c'est de la télésurveillance. Alors, ça nécessite une organisation entre le patient, le dispositif médical numérique connecté et l'équipe de soins qui va suivre le patient.
Mais alors, ça veut dire que ce patient connecté, au-delà des aspects technologiques en lui-même, il est très concerné par son suivi de santé.
Exactement, et c'est ça, ça change complètement le rapport, la place du patient dans ses soins, où il devient vraiment au centre. Alors si on peut faire un petit peu de mise en perspective sur justement la place du patient, où là l'idée c'est qu'il soit complètement informé, complètement au centre, il va s'éduquer aussi à sa propre maladie, il va devenir presque parfois expert, ce qui peut aussi interroger dans notre relation, parce que la médecine est très technique et vraiment c'est très poussé, et c'est vrai que des fois c'est difficile de s'y connaître sur de façon très pointue sur tous les sujets. Et on voit parfois, le patient, il va être presque meilleur que nous sur, certains aspects de sa maladie. Et là, on est partenaire. On devient partenaire.
Mais ça n'a pas toujours été le cas.
Et ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai, quand on reprend toute l'histoire un peu de la médecine, de relations médecin-malade, bon ben voilà, si on remonte très loin au Moyen-Âge, on peut le médecin c'était le prêtre, hein, et donc le patient ben c'était un patient qu'on accompagnait vers Dieu presque. Et puis ensuite avec les progrès scientifiques, hein, fin du 19e, début du 20e, ben là le médecin c'était le sachant, c'était le scientifique, et donc il faisait une ordonnance, il ordonnait à son patient de prendre tel traitement pour se soigner, et le patient, bah lui, il appliquait, hein, il y avait vraiment cette relation un petit peu très paternaliste, hein, comme on l'appelle. Et puis voilà, cette relation...
Ou maternaliste, finalement.
Ou maternaliste, tout à fait. C'est vrai.
Pardon.
Aujourd'hui. Et donc l'évolution, voilà, comme ça, de cette relation qui est devenue, qui était très duelle, hein, tout simplement, il y avait le médecin et son patient. Et puis le développement, bah voilà, de la science, des maladies chroniques, fait que maintenant, on est plus dans un accompagnement. Et en parallèle, bah, le patient qui aussi s'est un petit peu manifesté, hein, deuxième partie du XXe siècle, il veut reprendre la main aussi sur sa santé. Et donc je rappelle cette loi absolument fondamentale du 4 mars 2002, hein, la loi Kouchner, qui donne l'autorisation au patient d'accéder à son dossier médical, mmh, et qui oblige le médecin à donner une information libre et éclairée pour un consentement aux soins du patient. Vous voyez, c'est pas si vieux, hein, ça change complètement la relation, évidemment, entre le médecin et le patient. Hein.
Est-ce que c'est quelque chose, parce que là, vous êtes spécialisée dans la gériatrie, donc on parle des personnes âgées, mais c'est aussi pour tout type de patient, j'imagine, dès lors qu'une femme est enceinte, par exemple, dès le suivi de la grossesse, ce patient connecté peut être aujourd'hui une femme enceinte?
Bien sûr. Bien sûr. Et par exemple, je pensais à la télésurveillance en diabétologie, dans le diabète gestationnel, oui, par exemple. Eh ben, c'est des choses qu'on met en place en télésurveillance. Ah. Oui, si on revient aux actes, oui, de télémédecine, en effet, oui, à tout âge de la vie, hein, le patient est connecté. Hein. En fait, aujourd'hui, si on peut revenir un peu sur les aspects institutionnels, hein, quand je dis la place du patient, le patient prend toute sa place et aujourd'hui, il peut même avoir tout son dossier médical dans la poche. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle mon espace santé, dans lequel l'ensemble des éléments de santé vous concernant est enregistré. C'est vraiment votre coffre-fort numérique de santé. Et vous allez avoir vos comptes rendus d'hospitalisation, d'opération, de radiologie, de biologie. Et donc, les institutions ont mis en place des règles pour que chaque professionnel puisse abonder ce dossier médical dans cet espace, mon espace santé, donc ça s'appelle. Mais aussi le patient a sa place là-dedans, parce que le patient, il va pouvoir rédiger ses directives anticipées qu'il va placer à cet endroit-là. Il va pouvoir désigner sa personne de confiance. Vous savez, la personne, mmh, de confiance, c'est la personne que vous nommez si un jour vous avez un souci de santé qui ne vous permet pas de répondre aux questions du médecin, voilà, quelque chose de grave, d'urgent. Eh bien, le docteur, il va s'adresser à la personne de confiance. C'est extrêmement important pour nous et ça nous aide beaucoup pour savoir quelle décision prendre, quelle meilleure décision prendre pour le patient. Et tout ça, le patient, eh ben, il va venir abonder, il va remplir ses vaccinations, ça, voilà, et ça va le suivre toute sa vie.
Et ça va générer des datas.
Et ça va générer des datas.
Donc, nous allons revenir dans un deuxième temps sur ce détail très important, la génération de data. Mais avant cela, on a parlé de cet espace dans lequel nous avons notre dossier médical. Mais aujourd'hui, il y a un tas de choses, la montre, le téléphone, toutes ces choses-là. Ça aussi, ça rentre dans le cadre d'un patient connecté?
Alors, ça, c'est un petit peu... Il faut faire le distinguo entre les objets du quotidien que vous avez à disposition, votre appli qui compte vos pas, votre montre qui donne votre fréquence cardiaque ou comment vous avez dormi. Tout ça, c'est des données de bien-être, on va dire. Mais aujourd'hui, elles ne sont pas considérées comme données de santé pour notamment la télésurveillance, etc. Parce que c'est réglementé, évidemment. Ce qui enregistre vos données de santé de façon, qui rentre dans le cadre de la santé connectée, c'est des applications qui vont être labellisées. Mmh. Qui vont avoir un marquage CE, qui vont passer un certain nombre de normes, parce qu'évidemment, il faut regarder la qualité de la donnée et la fiabilité de ce qui est renvoyé. On ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui va peut-être faire une fausse mesure à un moment. Si c'est pour vous, dans le cadre récréatif, on va dire, c'est pas grave. En revanche, si c'est dans le cadre de la surveillance d'une pathologie, bah là, vraiment, on a besoin d'une fiabilité importante. Donc, il faut faire le distinguo entre ces deux choses, mais finalement, l'ensemble produit de la donnée.
Alors là, nous allons rentrer aussi dans ce sujet de la donnée. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? Parce que le patient connecté est une personne comme vous et moi. Et qu'est-ce qui est en train de se passer finalement dans la planète vis-à-vis de cette nouvelle technologie qui nous concerne tous et notre santé?
Thank you.
c'est le nombril de Vénus sur Canal B. Eh bien, je ne sais pas, peut-être vous avez une montre connectée, peut-être vous utilisez votre téléphone portable pour savoir le nombre de pas ou alors comment bat votre petit cœur à l'instant T. Vous êtes peut-être ou pas un patient connecté. C'est vraiment l'objet de la conférence qui va se tenir à Cesson-Sévigné à l'Espace Citoyen ce mardi 12 mai à 20h. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Alors, allez-y, écoutez la médecin Docteur Marie Coste, médecin gériatre et référente en télésanté au CHU de Rennes. Elle est avec nous là en ce moment et nous sommes en train de parler de qu'est-ce que c'est donc ce patient connecté qui va finalement, docteur, générer du data.
Exactement. Exactement. Le patient est un producteur de data.
Malgré lui d'ailleurs.
Parfois malgré lui, tout à fait. On va effectivement, si vous avez une montre connectée, par exemple, une montre, une Apple Watch, voilà, eh bien oui, aujourd'hui, Google, par exemple, a des grandes cohortes pour faire de l'analyse de ces datas. Voilà.
Donc, bon.
Donc, on produit de la donnée, en effet.
Ouais.
Aujourd'hui, la santé.
Est-ce sain ?
Ah, c'est
pas... Grande question.
L'avenir nous le dira. Oui. L'avenir nous le dira. Aujourd'hui, il faut avoir conscience que la data, c'est vraiment l'or noir du 21e siècle. Ça, c'est évident. Et la santé produit 30% des données mondiales. Donc, c'est énorme, énorme. Notamment dans l'imagerie. Hein, toute l'imagerie médicale qui est de plus en plus précise et du coup qui est de plus en plus volumineuse, tout ce qui concerne le génome aussi, hein, toute l'ADN, tout ça, le fait de séquencer l'ADN, ça c'est aussi produit beaucoup, beaucoup de data. Le sujet en santé, c'est la qualité de la donnée. Parce qu'ensuite, pour mener des études, la donnée doit être de qualité, elle doit être, sous un format qu'on va pouvoir exploiter. Et aujourd'hui, en santé en tout cas, on produit énormément de données, mais elle n'a pas encore, sur l'ensemble des données, 97-98% n'est pas exploitable. Donc voilà, on a encore des progrès à faire pour pouvoir potentialiser la recherche médicale.
Mais il y a aussi, qu'est-ce que c'est cette donnée ? Enfin, dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose de virtuel, tout simplement. Or, peut-être ce n'est pas vraiment ça.
Alors... Non, c'est pas virtuel, mais voilà, ça, c'est vrai que des fois on veut nous faire croire, oui, on dématérialise, c'est formidable, il y a plus de papier, on coupe plus d'arbres, mais enfin, voilà, l'internet, hein, c'est des millions de kilomètres de câbles sous-marins, c'est des data centers qu'il faut refroidir et qui utilisent énormément d'eau, c'est des satellites plein le ciel, donc je crois que là aujourd'hui, on se rend compte. Que Internet, la dématérialisation, c'est pas si dématérialisé que ça. Hein. Mmh. 10% de la consommation d'énergie mondiale est liée à l'Internet.
Hein. Ah oui, bon. Mmh. Et après, tous ces datas-là, ils ont probablement une optimisation pour la santé, donc c'est quand même quelque chose de positif en soi pour
alors,
vous, médecin.
Oui. En santé, ça va amener à des choses assez révolutionnaires. Hein. Donc, pour se donner un peu le cadre et pour se remettre en perspective, la médecine, à une époque, était surtout curative. Hein. On a fait, au début du 20e, on a trouvé les antibiotiques, on a trouvé la vaccination, c'était l'ère de l'hygiène. Voilà, on a permis des avancées extraordinaires. Et là, on sent qu'il va y avoir une nouvelle avancée peut-être extraordinaire grâce à l'analyse des data, parce qu'on va aller plus précisément dans les maladies, les qualifier, on va pouvoir peut-être faire de la médecine un peu prédictive en fonction de votre profil, et ben on va savoir que vous allez être plus à même de développer telle ou telle maladie, et on va aussi avoir des traitements bien plus ciblés par rapport à comment dire, aujourd'hui on a un peu des standards, si vous voulez, vous avez un diagnostic, ben on va standardiser un petit peu les traitements qu'on va vous proposer. Demain on aura certainement des traitements personnalisé. Et c'est ça qui va être quand même assez extraordinaire.
En quoi c'est crédible, en fait, cette promesse avec les data et la médecine ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cela ?
On attend de cela un changement un petit peu de paradigme dans la manière d'approcher la médecine et la santé, hein, avec une médecine 4P, on va dire, on l'appelle comme ça un peu, c'est-à-dire une médecine qui va être bien plus personnalisée, qui va être bien plus aussi préventive. Vous savez, en France, on est très, très, très sur le curatif. Mmh. Et donc, on a envie d'aller en amont de la maladie par une médecine préventive. Et puis, elle va être aussi peut-être prédictive. Alors là, on arrive très en amont aussi, avec toutes les analyses génétiques, par exemple, où on va pouvoir prédire peut-être que vous allez avoir telle trajectoire de santé qui va peut-être mener vers une maladie. Et donc, on va mettre des programmes de prévention aussi personnalisés avec un patient qui va être très participatif au cœur de son soin.
Donc, je pourrais presque dire qu'on peut rajouter un cinquième P, c'est celui de programmer, quoi.
C'est pas mal, ça.
Mais oui, toujours fondé sur les preuves, peut-être le sixième P.
Ah oui, le sixième P.
Sur les preuves, hein, donc voilà, tout cela s'appuie sur des études, sur la recherche médicale qu'il faut bien sûr abonder aujourd'hui et dans lequel les data ont toute leur place. Ouais.
C'est et utiliser plus la prévention aussi peut-être, je ne sais pas.
Exactement, ouais. Et aller en amont de la maladie et utiliser de la prévention aussi personnalisée, parce que finalement en fonction de votre profil, eh ben, on va vous dire, bah, vous c'est peut-être plus vers là qu'il faut aller, on va vous motiver aussi pour l'activité physique. On sait que toute la santé, elle vient aussi, elle part de l'enfance, c'est toute l'éducation à la santé, et là, avec votre appli santé dans votre poche, personnalisée, et puis on va pouvoir faire de la prévention dès le plus jeune âge et de l'éducation à la santé, ça c'est très important.
C'est très important, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté un peu anticipation, un peu on pourrait avoir peur de ce qui pourrait nous arriver quelque part?
Tout à fait, tout à fait. Il faut jongler là-dessus entre le fait d'être rassuré parce qu'on est, par exemple, télésuivi, parce que voilà, on prend soin de quelque chose, quoi,
voilà, ensemble.
Mais il y a aussi, effectivement, il faudra faire attention, notamment sur la médecine prédictive, à l'anxiété que cela peut générer. Hein. Mmh. Ça, ouais, il faudra faire attention, mais tout cela est en construction. Donc,
exactement, parce qu'il y a aussi cette idée de la prévention parce qu'il y a des antécédents familiaux, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça, déjà, c'est une partie qui peut rendre les individus un peu anxieux, non ?
Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut être capable, si on a de la médecine prédictive, on le voit, hein, avec certains dépistages génétiques dans certains cancers où on sait qu'il y a des familles, voilà, qui ont des mutations qui mènent à certains cancers. Il faut que la société puisse organiser le dépistage pour ces patients-là. Parce que vous imaginez bien que c'est l'épée de Damoclès. S'il n'y a aucune chose qui est organisée autour, bah, évidemment, là, ça peut rendre anxieux et créer de la fragilité dans la santé mentale, par exemple, alors qu'on veut bien faire, bah, finalement, est-ce qu'on fait bien, quoi ? L'avenir nous le dira, mais n'y a-t-il pas un paradoxe dans tout ça ? Entre l'hypertechno, ce qu'on nous promet, voilà, avec les progrès en santé, et d'un autre côté, voilà, la crise écologique qui est là, avec la nécessaire sobriété, avec peut-être une vision plus collective de la santé, quand l'hypertechno nous promet une médecine très hyper personnalisée. Voilà, est-ce qu'on n'a pas un paradoxe là-dedans ? L'avenir nous le dira, encore une fois, je ne sais pas, on avance dans cette ambivalence un petit peu ambiante. Bon.
En tout cas, c'est tout ceci que nous allons trouver dans votre conférence.
Oui.
Donc, ce sont des choses qui sont très délicates. Cette approche est très délicate. Vous allez nous parler longuement lors de cette conférence qui va durer à peu près 1h15, c'est ça ? Elle a été, à l'origine, c'est une invitation que vous avez reçue. C'est qui vous a invité à faire cette conférence ?
Alors, c'est un patient avec qui j'ai fait un cours à la fac de médecine là, pendant plusieurs années, un patient partenaire, on va dire, qui est président de l'association Ensemble Partageons le Numérique et qui m'a proposé du coup de faire cette intervention.
C'est formidable. Ouais. Et donc, le fait de numérique, si on revient quelques instants, si on a envie de s'instruire par exemple, parce qu'il y a les aspects d'écologie, finalement, on a envie de savoir un peu plus aussi qu'est-ce que c'est que ces data, le numérique, qu'est-ce qui se passe concrètement, est-ce qu'on peut peut éventuellement, je ne sais pas moi, lire des ouvrages ou faire quelque chose. Vous avez des tips à nous donner?
Alors oui, je peux vous faire quelques lectures qui m'ont un peu inspirée aussi pour préparer. Hein. J'en donnerai... Voilà, deux ou trois. Un assez intéressant sur le numérique en lui-même pour se rendre compte de la matérialité de ce qu'est Internet. C'est quand même la plus gigantesque infrastructure humaine sur la planète. Hein. Et donc, ce livre s'appelle « L'enfer numérique, voyage au bout d'un clic hein, ». C'est Guillaume Pitron en 2021 que j'ai trouvé assez passionnant et révélateur. Hein. On ne se rend pas compte quand on a notre smartphone dans la poche, on croit que voilà, c'est tout petit, tout léger, mais en fait, c'est issu d'infrastructures absolument colossales. Et je vous en donnerai peut-être deux autres aussi qui sont une introduction à ce qu'on peut prévoir sur l'évolution de la médecine. Mmh. Donc, un qui a été rédigé par le professeur Jean-Emmanuel Bideau, qui est oncologue et qui s'appelle 2041, l'Odyssée de la médecine.
Ah, c'est pas mal, ça.
Merci, Kubrick.
Oui. Et un autre qui aussi peut bien dessiner, et puis avec des cas d'usage, donc ça matérialise un peu ce qu'on va peut-être entrevoir plus tard, qui s'appelle « L'IA au service de la santé », et qui a été écrit par Thomas Klein. Alors, voilà, bon, tout ça, ça peut nous aider, voilà, à réfléchir, hein, évidemment, que tout cela est extrêmement complexe, tout cela est en transition, voilà.
Et un film documentaire?
Je vous conseille en effet cet excellent documentaire qui est sur Arte et qui s'appelle « Votre santé, un trésor très convoité », réalisé par David Carr Brown, qui parle des géants du numérique qui viennent coloniser là, le monde de la santé. C'est impressionnant.
Et vous êtes là pour faire un point d'étape, finalement.
On fait un petit point d'étape aujourd'hui, en effet, sur le sujet.
Exactement. Donc, rendez-vous le 12 mai. Je vous invite à aller sur le site opn-sesson-sevigné.fr dans l'espace conférence pour faire votre préinscription. Si vous souhaitez, bien sûr, c'est ouvert à tous et gratuit, mais il faut faire sa préinscription pour le 12 mai à 20h, la conférence Le Patient Connecté avec le docteur Marie Coste. Merci beaucoup.
Merci Juliana.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B.
Retrouvez cette émission en podcast sur le site de canalb.fr. Je vous souhaite un excellent week-end. Allez, bisous, bye. Now I'm trying to be where the sun and the rock you want me to be. And sometimes I fail, you know that I'm sorry, 'cause you give me joy and everything more than I need. Oh, it's a joy. Know you're my sunshine, lady. Yes, it's a chance to live with you, my sunshine girl. I will never trade my life, sunshine lady. 'Cause you make me feel, you make me feel, you me up in pieces, bring me back on my feet.